21h à Ouagadougou, 22h à Abuja et à Freetown. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Le Nigeria dévalue sa monnaie de 8%, ce qui génère beaucoup d'inquiétudes dans la population. Au Burkina Faso, la lumière sera-t-elle faite sur le dossier Norbert Zongo ?
Il avait fait une enquête très pointue dans laquelle il avait révélé que François Compaoré donc avait utilisé les éléments de la garde présidentielle pour torturer à mort son chauffeur.
Nous entendrons l'avocat de la famille Zongo, Prosper Famara. En Sierra Leone, des agents de santé réclament une prime de risque. Ils ont déplacé des cadavres en pleine rue en signe de protestation. Enfin, à Dakar, le sommet de la francophonie se prépare. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Trois casques bleus et un Congolais ont été arrêtés aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour détention illégale d'uniformes de l'armée congolaise. C'est ce que dit l'AFP qui cite des sources officielles. Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Raphaël Dogbo, un proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêté. C'est ce qu'indique l'AFP qui cite le FPI, le principal parti d'opposition. Lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'Union européenne demande à ses pays membres de mobiliser 5000 médecins pour l'Afrique de l'Ouest. Une centaine de soignants nigériens sont attendus d'ores et déjà dans cette région en fin de semaine. Les précisions, Michel Joseph.
Ces agents de santé nigérians iront en Sierra Leone à la demande express d'assistance du gouvernement de Freetown, a précisé l'ambassadrice nigériane Gladys Aquist Adebeyi. De leur côté, les responsables sierra-léonais de la santé ont fait savoir que les renforts seront déployés dans les provinces de l'Ouest et du Nord, actuellement les plus touchées par le virus Ebola. Par ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a entamé à Accra, au Ghana, la formation de 150 agents de santé qui seront chargés de combattre l'épidémie dans les trois pays les plus touchés. Pour sa part, la Commission européenne a appelé les pays membres à fournir 5000 médecins et des milliers de soignants en faveur des pays sinistrés. Selon l'AFP, les commissaires à l'aide humanitaire et à la santé de l'Union mènent des contacts en vue de mobiliser cette assistance qui s'ajoutera à l'enveloppe de plus d'un milliard d'euros qu'entend fournir l'Union contre l'épidémie d'Ebola.
Signalons aussi que la mission onusienne pour l'action d'urgence contre Ebola a ouvert un bureau au Mali qui a enregistré 7 décès dus au virus. En Égypte, 78 mineurs qui ont manifesté en faveur du retour de Mohamed Morsi au pouvoir ont été condamnés aujourd'hui de 2 à 5 ans de prison. Ils sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste. Rappelons que Mohamed Morsi avait été destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet 2013 après une révolte populaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ferguson a connu une deuxième nuit agitée ce mardi suite à la décision d'une chambre de mise en accusation de ne pas poursuivre le policier blanc qui a tué l'adolescent noir non armé Michael Brown. C'était le 9 août dernier dans cette ville de la banlieue de Saint-Louis dans le Missouri. L'ambassadeur russe à l'ONU Vitaly Churkin a rejeté aujourd'hui l'idée des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine de demander le déploiement de casques bleus, notamment russes, dans cette région. Les autorités de Donetsk disent vouloir prévenir une catastrophe humanitaire. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 4 300 morts et 930 000 déplacés depuis son début en avril. Par ailleurs, le commandant militaire de l'OTAN, le général américain Philip Breedlove, dénonce la présence d'un grand nombre de soldats russes dans l'est de l'Ukraine où ils appuient les rebelles séparatistes. Moscou a à plusieurs reprises démenti de telles accusations. Visite du secrétaire d'État américain en Europe la semaine prochaine. John Kerry va participer notamment à une réunion de l'OTAN. Selon le département d'État, Kerry fera des escales à Bruxelles, Bâle et Londres au programme des discussions sur la lutte contre le groupe État islamique, la situation dans l'est de l'Ukraine et la transition en Afghanistan. Et puis, des centaines de vols ont été annulés ou retardés ce mercredi sur la côte nord-est des États-Unis en raison du mauvais temps. La météo n'a pas prévu beaucoup de neige, mais la pluie qui est tombée en abondance sur Boston, Philadelphie, New York et Washington et devait se transformer en neige dans la journée a rendu le trajet compliqué pour les plus de 46 millions d'Américains qui devaient prendre la route aujourd'hui et demain à l'occasion de la Thanksgiving, jour des actions de grâce. Voilà, bonne fête de Thanksgiving, Claire, et la suite du programme, c'est avec vous.
Merci beaucoup, Georges, et très bonne fête de Thanksgiving à vous aussi. Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission avec le Nigeria qui a dévalué sa monnaie hier car elle avait atteint un niveau historiquement bas contre le dollar. Les réserves de devises étrangères sont affectées par la baisse des prix du pétrole. Plus d'explications avec Eddie Sango.
La mesure a été annoncée par Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Il a précisé que le nouveau taux cible est fixé à 168 naira pour un dollar qui s'est changé auparavant à près de 180 naira. Première économie d'Afrique, le Nigeria tire environ 70% de ses revenus du pétrole. Les prix du brut a chuté à 78 dollars les barils contre 100 dollars il y a 2 mois. Avec cette baisse du prix de l'or noir, les réserves d'échange ont énormément baissé. Cette dévaluation de la monnaie, 3 mois avant les élections générales de février 2015, pourrait être mal perçue par les proches du président Goodluck Jonathan. Candidat à sa réélection, le leader nigérian est déjà très critiqué pour sa gestion de l'insurrection islamiste des Boko Haram.
La Banque centrale du Nigéria a donc dévalué le Naira de 8% pour faire face à la baisse des prix du pétrole brut, principal produit d'exportation du pays. La plus importante économie d'Afrique importe 80% de ses biens de consommation et en conséquence, cette mesure inquiète beaucoup les Nigérians. Pour une réaction, Timothée Donangmai a joint à Lagos l'avocat Hassan Silas.
On s'attendait un peu à ça. Mais pas dans l'immédiat. Peut-être on avait pensé que ça pouvait arriver en début d'année prochaine, quoi. Mais là, la nouvelle est tombée comme l'épée de Damoclès, quoi.
Quelle est l'incidence de cette mesure aujourd'hui sur le pays?
Oh, si tu veux, c'est vraiment catastrophique parce que tu sais qu'au Nigeria, ici, les produits exportés sont exportés en naira. Mais les produits importés, ils sont importés en dollars. Donc, ce qui fait que le coût devient très, très cher après la dévaluation parce que, alors que je te parle là, tous les commerçants ont stocké leur stock et ils ne veulent plus vendre, ils attendent jusqu'à la nouvelle décision pour voir s'il n'y a pas de changement, ils vont peut-être augmenter les prix sur le marché.
Qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire?
Il n'y a pas d'issue pour le gouvernement actuellement parce que nous sommes d'abord en pleine campagne électorale, ça c'est un. Et puis avec le prix du pétrole qui va chuter, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et puis même pour le gouvernement, ça va être difficile. C'est un gros morceau pour le gouvernement. Donc pour le moment, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines 48 heures.
En cette période électorale, c'est sûrement une décision que l'opposition critique.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils vont s'en servir, ils vont s'en servir. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que cette décision peut compromettre la campagne électorale du président Jonathan?
D'une manière ou d'une autre. Bon, sur le plan économique, les économistes ont plus d'arguments pour le défendre. Mais sur le plan social, je pense que ça va beaucoup affecter sa campagne.
Maître Hassan Silas, avocat à Lagos. Retour sur l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. La justice avait classé le dossier sur le meurtre de ce journaliste en 1998. Il avait été tué alors qu'il enquêtait sur l'assassinat du chauffeur de François Compaoré, frère et conseiller du président déchu Blaise Compaoré. Aujourd'hui, la famille de M. Zongo réclame la réouverture du dossier et leur avocat estime que cette demande est tout à fait acceptable. On écoute Maître Prosper Famara.
Oui, absolument. D'abord, on regarde la volonté politique déclarée par les nouvelles autorités de la transition. Et pour nous, ça paraît possible. En plus, il faut savoir qu'au niveau du domicile de François Compaoré, il a été retrouvé un certain nombre de documents qui le relient directement à l'affaire Norbert Zongo, constituent des faits nouveaux et autorisent donc la réouverture du dossier. Il faut se rappeler qu'au niveau de la Cour de justice de Arusha, Taboukinabé déjà avait été condamné dans le cadre d'une procédure à réouvrir le dossier à Norbert Zongo. Donc pour nous, tout ça l'un dans l'autre, permettre légalement la réouverture de ce dossier.
François Compaoré avait toujours dit qu'il n'avait aucune relation avec les auteurs présumés de ce meurtre.
La situation et les découvertes qui ont été faites à son domicile démontrent tout à fait le contraire. Notamment qu'on a trouvé à son domicile l'ensemble même des pièces du dossier Norbert Zongo, la totalité des dossiers d'instruction sont retrouvés à son domicile. Et on a retrouvé que les procès verbaux donc de Silati de Nouvelle-Zongo qui étaient à son domicile. Au regard de ces constatations, on ne peut plus dire qu'il était lié ni de près ni de loin avec cette affaire.
Hein. Norbert Zongo, tué en 1998, ça fait 16 ans. Qui était Norbert Zongo?
C'était un journaliste émérite d'investigation. Chaque mercredi, sortait d'un journal qui s'appelait L'Indépendant, qui est d'ailleurs toujours fonctionnel. Il faisait des révélations très pointues sur les actes du comportement du gouvernement de Blaise Compaoré, et notamment qui avait révélé une affaire qui avait trait donc à la famille du président, notamment à son petit frère, touchait à l'assassinat du chauffeur de François Compaoré et la torture de deux autres domestiques, notamment par des agents de la garde présidentielle, pour une supposée affaire de vol d'argent au détriment de François Compaoré. Et il avait fait une enquête très pointue dans laquelle il avait révélé que François Compaoré donc avait utilisé des éléments de la garde présidentielle pour torturer à mort son chauffeur pour une question supposée de vol d'argent. Et il avait torturé et brûlé deux autres domestiques. Et c'est suite donc à ces révélations-là qu'un soir donc de décembre 98, il a été abattu par des personnes embusquées donc sur la route de Sapui, qui est la route qui menait donc à son ranch. Les armes qui avaient été utilisées à l'époque, selon les enquêteurs, étaient des armes de pointe, donc utilisées essentiellement par les militaires, et qui avaient conduit donc la commission d'enquête indépendante à conclure que, avec d'autres éléments impertinents, que les suspects, il y avait 6 suspects sérieux dans cette affaire, et c'était tous les personnes qui relevaient de la garde présidentielle. Voilà donc comment est partie l'affaire Norbert Zongo.
Et depuis, effectivement, toutes les pistes judiciaires ont été épuisées, jusqu'à même un procureur nommé Adama Sagnon et déclaré un non-lieu à l'époque.
Le procureur Sagnon, à l'époque, avait donc requis un non-lieu au profit de Marcel Cafando, qui était le chef de la garde présidentielle de l'époque, qui avait été impliqué dans l'affaire. Et le juge d'instruction avait suivi le procureur à l'époque et avait ordonné le non-lieu et le dépôt donc du dossier au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Donc depuis lors, on en était là. Et à une reprise au moins, nous avions demandé la réouverture du dossier en produisant des faits nouveaux, notamment des témoignages des jeunes qui attestent qu'ils avaient rencontré à l'époque François Compaoré, avec qui ils avaient eu une conversation qui révélait que François était bel et bien au courant de l'assassinat de Norbert Zongo. Le procureur à l'époque, donc le procureur Sagnon et le procureur Barry, qui était le procureur général à l'époque, ont balayé du revers de la main ces éléments et ont maintenu le non-lieu jusqu'à aujourd'hui.
Maître Prosper Famara, avocat de la famille de Norbert Zongo, au micro d'Idriss Fall. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Rubrique santé à présent. Dans l'est de la Sierra Leone, des agents impliqués dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola à Kenema ont été licenciés pour avoir abandonné des corps dans les rues. Les détails de cette sordide affaire avec Michel Joseph.
Des membres des équipes chargées d'enterrer les corps ont observé lundi une grève pour réclamer le paiement de primes de risque, un peu plus de $100 américains. Dans ce mouvement d'humeur, selon l'AFP, certains grévistes ont transporté les cadavres d'une morgue pour les abandonner dans les rues de Kenema. Palo Conte, chef du Centre national de lutte contre l'Ebola, a donc décidé de solder les comptes. Il a promis de les payer jusqu'à ce vendredi et les a licenciés. Ils seront remplacés par des militaires qui travailleront avec la Croix-Rouge pour mener les opérations. Avec 1267 morts sur plus de 6000 cas recensés, la Sierra Leone est le deuxième pays le plus affecté par le virus Ebola.
Un papier évidemment présenté par Henri Francisque et non Michel Joseph. Toutes nos excuses. Au Sénégal, les ministres de la francophonie ont commencé leur réunion de préparation du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Diam Gagno, près de Dakar. Idriss Fall a joint El Hadji Hamidou Kassé, président du comité scientifique du sommet de la francophonie.
Le samedi et dimanche prochain, nous attendons environ une quarantaine de chefs d'État ou un tout petit peu moins, 25 ministres des Affaires étrangères, représentants des chefs d'État ou de gouvernement, et puis divers autres ministres. Le thème tourne autour des jeunes et des femmes et il est ainsi intitulé « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Dans le projet du président Macky Sall qui a proposé ce thème à ses homologues de l'espace francophone, la femme et les jeunes constituent les deux piliers essentiels en dehors du rural comme troisième pilier. Mais également, on a remarqué que ces 30 dernières années, les femmes et les jeunes ont été au cœur de plusieurs mutations politiques, de façon positive ou négative, parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire qui, s'il n'est pas utilisé, peut se transformer en une force de déstabilisation qui provoque des conflits, provoque des crises. Et de ce point de vue, nous avons pensé qu'il fallait articuler jeunes et femmes avec les problématiques de paix et de développement. Parce que si les femmes et les jeunes ne sont pas satisfaits, ils sont des forces de déstabilisation.
Ce sommet se tient juste après la révolution au Burkina Faso où les jeunes ont ouvertement remis en question ces changements de constitution.
La question du Burkina va être évidemment abordée, mais dans le sens de se féliciter du fait que la transition s'est opérée sans violence. Et d'autre part, c'est d'encourager les nouvelles autorités, notamment le président et le premier ministre, donc de les encourager à assurer une transition en douceur qui permette au Burkina Faso de retrouver une vie constitutionnelle normale et au peuple burkinabé de continuer sa bataille pour le développement, qui est en réalité la seule bataille qui vaille.
Bien sûr, la question sur toutes les lèvres, qui est le prochain remplaçant pour Abdou Diouf?
Pour le moment, il y a 5 candidats qui se sont déclarés officiellement. Il s'agit de Michael Jean du Canada, Jean-Claude Lestrade de l'île Maurice, de Henri Lopez de la République du Congo, de Pierre Dioya, ancien président du Burundi, et de l'Équateur-Guinéen. 4 à 5 candidats qui se sont déclarés. Évidemment, dans l'histoire des secrétaires généraux, l'OIF procède en général par consensus. Le président Sall, en tant que président du pays hôte de ce sommet, travaille pour qu'il y ait un consensus et que le 15e sommet sorte avec un secrétaire général ou une secrétaire générale qui remplit les conditions nécessaires pour la prise en charge des nouveaux enjeux et défis dans l'espace francophone et dans le monde.
Eladji Hamidou Kassé, président du comité scientifique du sommet de la francophonie au Sénégal.
Oh, there's something on my mind. Won't somebody please? Please tell me what's wrong.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la technique, Sidrak Franklin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Ike et Tina Turner pour leur morceau A Fool in Love, Tina Turner qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. You do when he touches a man.